et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Ça commence à être très difficile à supporter. En plus, avec la chaleur, ça gratte.
Et oui, comment porter un masque par plus de 30 degrés dehors ? C'est le casse-tête que vous allez tous vivre à partir d'aujourd'hui pour plusieurs jours.
Et nous allons vous entendre dès le début de ce journal. Comment supportez-vous ce petit bout de tissu ou de papier sur votre nez par 35-37 degrés ? Tandis que le conseil scientifique s'interroge sur l'hypothèse d'une deuxième vague de Covid pour l'automne, avec nous dans ce journal, le professeur Arnaud Fontanet.
110 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute, c'est l'idée de la convention citoyenne qui pourrait être retenue pour faire baisser la pollution. Nous avons fait le test sur la route et nous inviterons l'historien de l'automobile Mathieu Flonneau.
La justice aujourd'hui avec le réquisitoire dans le procès du Mediator, témoignage à suivre de la fille d'une victime qui s'est battue pendant plus de 10 ans.
Son état s'est dégradé de jour en jour, de mois en mois. La médiateur nous l'a confisqué, notre maman.
Dans ce journal également, la reprise des fouilles dans les Ardennes dans le cadre de la disparition d'Estelle Mouzin. 4 policiers impliqués dans la mort du chauffeur-livreur Cédric Chouvia. Une école de Nîmes obligée de déménager à cause du trafic de drogue dans le quartier. Et puis le sport, malgré les difficultés, la fin de saison précipitamment interrompue. L'OM y croit pour la saison prochaine.
Il n'y a pas de grande solde à l'Olympique de Marseille. Notre volonté en tant que dirigeant, c'est évidemment d'être le plus compétitif possible.
À la fin de ce journal, Stéphane Diagana, le comité olympique s'inquiète de la disparition potentielle des clubs de sport. Nous serons avec cet invité exceptionnel dans Europe Midi. La météo, Céline Acosta, très 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 chaud.
Mais oui, très beau et très chaud, c'est vrai. Grand ciel bleu pour tout le monde et des températures qui continuent de grimper. Merci Céline Acosta. Météo complète juste avant 13h.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Céline Acosta vient justement de nous en parler. Une forte chaleur attendue aujourd'hui sur tout le pays.
Oui, mais c'est bien la première fois que vous allez supporter ces chaleurs avec un masque sur le nez. Alors bien sûr, pas partout, mais nombre de Français sont tout de même concernés. Jeanne Bergaoui, vous êtes allé voir du côté du marché Saint-Charles dans le 15e à Paris. Et c'est pas simple, hein.
Oui, et c'est même assez désagréable. Alors j'ai posé la question à beaucoup de clients et...
C'est pénible. Moi, j'arrive pas à respirer.
Voilà, le verdict est unanime, hein. Pas un seul client ne se sent à l'aise avec le masque, même si le marché est installé à l'ombre. Mais même comme ça, Monique souffre de devoir le porter.
Quand on respire par la bouche ou par le nez, il y a la chaleur qui monte et c'est désagréable. J'aurais voulu enlever le masque, mais j'ai peur avec mon âge.
Et puis avec ces températures, la peau colle, il y a encore plus de buée sur les lunettes de soleil. En pleine préparation de bouquet, Alain râle un peu avec ses clients.
Ça commence à être très difficile à supporter. En plus, avec la chaleur, ça gratte. L'élastique, ça fait mal aux oreilles. Et ça devient très compliqué. Mais bon, on est obligé de le garder parce que par mesure de sécurité, il faut faire très attention quand même. Mais il y a des fois, on a envie vraiment de l'arracher.
Alors, même si c'est pénible, globalement, ici, tout le monde porte un masque. On ne l'enlève que pour goûter un raisin ou un morceau de pastèque.
Merci Jeanne Bergaoui.
Voilà donc pour ce risque supplémentaire, alors que déjà dimanche, le relâchement a été constaté lors des rassemblements pour la fête de la musique.
Alors évidemment, l'idée, c'est de ne pas être alarmiste, mais si l'on regarde de près une nouvelle note du conseil scientifique, il est extrêmement probable qu'on ait une deuxième vague à l'automne. Bonjour professeur Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Vous êtes l'un des membres du conseil scientifique, vous êtes directeur de l'unité de recherche d'épidémiologie à l'Institut Pasteur. Qu'est-ce qui vous fait craindre cette deuxième vague ?
Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait dit exactement deuxième vague. Je pense qu'on a dû dire une intensification de la circulation du virus. Pourquoi je fais la différence ? C'est parce qu'une deuxième vague, ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi à stopper la reprise d'une circulation du virus et qu'on se retrouvait avec une vague de patients en hospitalisation, en réanimation. Et évidemment, ça, on aimerait ne pas le voir. En revanche, le virus, il va revenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est très probable ? D'abord, parce qu'on le sait qu'à l'issue de la première vague, qu'il a été une véritable vague de patients, il n'y a que 5 à 10% de la population française qui a été infectée, donc qui a des anticorps, qui est protégée. Et c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait pour empêcher une circulation spontanée du virus. On pense qu'il faudrait qu'au moins 50 à 70% de la population ait été infectée pour qu'on n'ait pas cette circulation du virus.
Pour qu'il y ait l'immunité dans la population.
Voilà, l'immunité collective suffisante pour empêcher la circulation du virus. Deuxième point, c'est que le virus, il est encore très présent. Il n'y a jamais eu autant de cas d'infection par ce nouveau coronavirus dans le monde que dans la semaine qui vient de s'écouler, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le virus, il a fait comme les virus respiratoires. quand il fait trop chaud dans l'hémisphère nord, il part dans l'hémisphère sud parce que c'est un virus qui préfère les températures basses. On le retrouve aujourd'hui beaucoup, comme vous le savez, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, on le retrouve en Afrique du Sud, et puis maintenant il est arrivé en Inde, un pays extrêmement densément peuplé, avec des systèmes de santé fragiles. Donc on peut tout à fait s'attendre à ce que pendant cet été, le virus soit dans l'hémisphère sud, et comme les autres virus respiratoires, attendre l'automne pour revenir dans l'hémisphère nord.
Donc ça signifie, professeur Arnaud Fontané, qu'on peut espérer passer un été tranquille, puisqu'il va faire chaud et qu'on attend de fortes chaleurs?
Alors d'une part, le virus n'aime pas la chaleur, d'autre part, quand les gens sont dehors, c'est vrai que la transmission se fait beaucoup moins facilement. La plupart des clusters, ce qu'on appelle ces foyers qui rassemblent un grand nombre de personnes qui ont été infectées, ont eu lieu dans des lieux confinés. Maintenant, il faut se souvenir que quand un virus pandémique émerge pour la première fois en population humaine, c'est ce qu'on voit avec les pandémies de virus grippaux, eh bien, le premier été, il est quand même susceptible de circuler, y compris dans l'hémisphère nord. C'est ce qu'avait fait le virus H1N1 en 2009, qui avait traversé l'Angleterre pendant l'été, parce que l'immunité collective est tellement faible au moment de la première vague que finalement, ça peut quand même permettre la circulation du virus. En revanche, les virus grippaux, ils deviennent saisonniers après deux ou trois vagues. On pourrait imaginer, pour ce nouveau coronavirus, un même destin.
Professeur Fontané, il y a des pays qui ont reconfiné. Évidemment, je pense à l'Asie en premier, mais on a appris il y a une heure que l'Allemagne vient de réintroduire pour la première fois un confinement local dans un canton de l'Ouest. Question simple, est-ce que cet automne, on risque de reconfiner la population française?
Alors, c'est vraiment la dernière extrémité. Pour nous, on souhaite éviter à tout prix un reconfinement. Alors, ce qui peut se produire, et même cet été en France, si on se retrouve face à un épisode de contamination massive, comme ce qui s'est passé dans cet abattoir en Allemagne, où ils ont plus de 1300 infections, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais c'était les chiffres d'hier, eh bien là, vous êtes obligé effectivement de confiner localement pour tester massivement tout autour de cet abattoir et s'assurer qu'on a identifié toutes les personnes infectées, ou au moins une grande majorité d'entre elles, avant de pouvoir réouvrir localement. Et ça, ça pourrait arriver en France si on est dans une situation similaire d'un grand rassemblement ou alors d'une entreprise qui serait propice à la circulation du virus. Ce qu'on est en train de penser à propos des abattoirs, c'est qu'on cumule à la fois une certaine promiscuité entre les personnes, aussi dans les foyers d'habitation de beaucoup des travailleurs migrants qui sont dans ces abattoirs, mais également le fait que ce sont des lieux réfrigérés et confinés. Et une fois de plus, ce virus aime bien le froid. Mmh. Donc c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi les abattoirs sont tellement touchés.
Alors là, pour des petits conseils simples, sans vouloir culpabiliser celles et ceux qui ont profité pendant la fête de la musique, là, quels sont les comportements à adopter? Oui, il faut porter le masque. Oui, il faut continuer à se laver les mains. Mais quel autre comportement? Aller rester plutôt dehors pour des rassemblements? À la maison, on reste toujours entre 8 et 10 personnes maximum si on veut inviter des amis? Est-ce que vous avez des conseils simples à nous donner?
En fait, les conseils restent les mêmes. Ce qui est important, c'est que les personnes se les approprient finalement et qu'ils les comprennent, ne les vivent pas plutôt comme une directive, mais le vivent comme quelque chose qu'ils font simplement parce qu'ils ont compris pourquoi c'est utile. Alors, on sait que le virus est transmis par des gouttelettes qui vont à 1 mètre, c'est des postillons. Eh bien, pour se protéger contre ça, vous respectez une distance physique d'un mètre et puis vous vous lavez les mains très régulièrement parce que les postillons, ils vont contaminer des surfaces ou les mains de votre interlocuteur qui va vous serrer la main. Donc, on vous dit, gardez une distance physique d'un mètre, lavez-vous les mains et là, vous vous protégez. Le masque, pourquoi est-ce qu'il est utile? Le masque, il est utile quand vous ne pouvez pas maintenir cette distance physique ou lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné, par exemple les transports en commun, parce que là, on sait que le virus peut aussi se transmettre par ce qu'on appelle des aérosols, qui sont des particules beaucoup plus fines et qui restent en suspension dans l'air dans les lieux confinés.
Donc, il ne faut pas oublier ces paramètres et c'est pour ça qu'il faut adopter ces gestes simples et utiles. Merci beaucoup, professeur Arnaud Fontané, d'avoir été notre invité dans Europe Midi.
Europe 1. Une première pause et dans un instant, la proposition de la Convention citoyenne sur le climat avec une mesure, celle des 110 km/h sur l'autoroute au lieu de 130. A tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
C'est l'une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat et elle pourrait bien être retenue à terme, Pierre.
110 km/h au lieu de 130 sur les autoroutes. Je vous entends déjà hurler, vous qui au contraire aimeriez peut-être que ça augmente à 150, 160, mais là, Il s'agit de faire baisser la pollution.
Alors, info ou intox, est-ce que ça marche vraiment? Quel temps gagne-t-on à rouler un petit peu plus vite? Pierre Herbulot a testé pour nous Grandeur Nature. Reportage.
Ce que vous entendez derrière moi, c'est l'autoroute A13 qui relie Paris à Caen. C'est la route que je vais emprunter d'abord à 130 km/h dans un sens, ensuite à 110. C'est parti. Un petit point de méthodologie pour que la comparaison finale ait du sens. Je vais faire l'aller et le retour exactement dans les mêmes conditions. J'utilise bien entendu un régulateur de vitesse, pour l'instant à 130. Les fenêtres de la voiture sont fermées, la clim est éteinte et la radio allumée.
Alors, va-t-on rouler à 110 km/h sur les autoroutes au lieu de 130, cette proposition?
Top ! Ça fait 100 km tout pile. Je fige les informations sur mon ordinateur de bord et je vais faire exactement la même route à 110 dans l'autre sens. Ça y est, c'est l'heure du verdict. Alors, à 130 km/h, j'ai mis 49 minutes pour faire 100 km. C'est 57 minutes à 110, donc 8 de plus. En revanche, en roulant moins vite, j'ai économisé 1,5 litre de carburant. Alors, je viens de faire les calculs. En termes de pollution, ça veut dire 4 kg de CO2 en moins dans l'atmosphère.
Reportage de Pierre Herbulot. Bonjour Mathieu Fleuneau.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, historien de l'automobilisme. Mettons en perspective et interrogeons-nous avec vous. Les limitations de vitesse en France datent de 1973, où les berlines les plus rapides atteignaient le 170 km/h maxi. La voiture moyenne roulait à 130-140. La deux chevaux, pied au plancher, le vent dans le dos, on atteignait quoi, 90 km/h. Ce 110 km/h, Mathieu Fleuneau, en 2020, où l'on produit des moteurs à la fois efficients et puissants, où n'importe quelle petite voiture atteint le 180, est-ce que ce n'est pas une régression?
Bah, le débat n'est pas de la régression, c'est pas la bonne manière de poser, à mon avis, en termes techniques, les enjeux. C'est clairement un débat sociétal, un débat politique, un débat qui mobilise l'écologie aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'argument principal. Je rappelle que lorsqu'en 1974, les mesures de limitation sont adoptées, il y a aussi une préoccupation de sécurité routière qui est éminente, parce qu'en 1972, il y avait 16 000 morts et un peu plus même sur les routes françaises. Donc il y avait l'énergie comme préoccupation, mais pas une préoccupation centrale. Aujourd'hui, je dirais que dans les représentations, et vous ne vous y trompez pas, le débat public est focalisé sur cette mesure de la Convention citoyenne sur le climat. On sait très bien que là, il y a une attaque de ce totem de l'ancien monde qui est l'automobile thermique, particulièrement. Mais il y a un décalage des représentations, et vous me permettrez de dire que cette convention avait l'espoir d'apaiser des revendications des Gilets jaunes, notamment autour de la question du 80. On est très loin, parce que ça va raviver de vieux débats.
De vieux débats, alors qu'on a la loi d'orientation des mobilités qui est passée. On demande, on propose et on a cette possibilité de pour tout le monde de circuler.
Oui.
Et en même temps, on dit vous pouvez circuler, mais il y a quand même un.
Il y a une injonction contradictoire. Ouais. Mais vous avez raison, il y a une injonction contradictoire, sachant que la loi d'orientation sur les mobilités prenait évidemment en considération la question écologique au premier chef. Toutefois, cette loi, par réalisme, avait réhabilité quelque part la culture routière et la route. Et de ce point de vue-là, on a reconnu que la route avait une nécessité de dessertes capillaires fines des territoires, comme l'on dit aujourd'hui, et donc elle avait un intérêt fondamental. Et là, eh bien, on cherche encore, peut-être, et de façon, je le pense, un peu provocante dans l'esprit des promoteurs de cette question, à archaïser un peu plus le système routier. C'est plus de l'ordre du symbole, mais le symbole a de l'importance, que de la réalité que votre reportage...
Le système routier, Mathieu Fleuneau, qui est payant, les autoroutes sont payantes, c'est-à-dire qu'on dit, alors, vous avez le droit d'utiliser l'autoroute, vous allez payer pour ça, mais vous ne pouvez pas rouler à plus de 110.
Ben, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de poser le débat qui occulte le fait que là, pour le coup, ce n'est pas gratuit, qu'il y a évidemment un système routier d'excellent niveau, les enquêtes le prouvent, qu'il est le moins accidentogène de tous les systèmes routiers qui peuvent exister, et c'est une manière peut-être un peu arbitraire de pénaliser le mode routier de ce point de vue-là.
Et encore plus pénalisant si on possède une voiture électrique.
Alors oui, des voitures électriques, vous le constaterez, sur autoroute, on en voit assez peu.
Pour l'instant,
il y a toujours cette question de l'autonomie.
Mais il y a de plus en plus d'aides, les autonomies sont de plus en plus importantes, donc il va y en avoir.
Et on encourage les gens à en avoir, oui.
On peut l'imaginer, effectivement, toujours est-il qu'il y a un surcoût. Et c'est aussi l'un des objectifs visés, c'est très clairement de faire passer le goût de l'automobile. Je dirais que là, il y a des questions éthiques, de liberté publique et individuelle aussi à mettre en débat.
C'est intéressant ce que vous avez dit, Mathieu Flonneau. Faire passer le goût de l'automobile. C'est-à-dire qu'on veut tuer la poule dans... Enfin, l'œuf dans l'œuf, j'allais dire. On veut tuer le problème dans l'œuf. On veut dire, voilà, l'automobile n'est plus un plaisir. L'automobile
alors
n'est
que
plus
ça l'est, n'est-ce pas, Pierre?
Bah oui.
Ça peut le rester, savoir, mais la dimension... Bon, la dimension plaisir est importante, mais elle est même... Oui, mais elle est secondaire par rapport au service public que représente l'automobile. Donc c'est une question fondamentalement républicaine, comme j'ai pu l'écrire à plusieurs reprises. Et c'est une question aussi d'homogénéité des territoires en France aujourd'hui. Et archaïser l'automobile est assez irresponsable. Le mouvement des Gilets jaunes l'a montré encore une fois. Et c'est un des paradoxes du macronisme, parce que Emmanuel Macron, souvenez-vous, pas encore président de la République, mais ministre de l'économie, avait favorisé la dérégulation des cars Macron, des autocars et des liaisons routières. Donc là, c'est une manière de dire que finalement, la route ne serait pas véritablement pertinente. Je pense que c'est contestable.
Quand vous voyez, et Elisabeth parlait des voitures électriques, quand vous voyez un objet comme la Citroën Ami, je crois, est en vente, même pas en vente, mais en location au prix d'un forfait téléphonique chez Darty
chez Darty,
Fnac,
oui.
Voilà. 45 km/h. Là, pour le coup, ce que vous dites est vrai, c'est on a totalement changé de paradigme en matière d'automobile.
Complètement, mais ça dépend des espaces de pertinence ou d'impertinence des usages de ces automobiles. Et en ville, je ne serai pas le défenseur à tout craint de l'automobilisme à l'ancienne, comme on dit, de ce totem, de cette relique de l'ancien monde. Mais enfin, on serait bien en risque quand même d'oublier toutes les régulations que l'automobile a occasionné, et ne serait-ce qu'en ville. Je dirais qu'avant de laisser la place à une farce dérégulée, ubérisée des mobilités parisiennes dont personne ne se réjouit avec les trottinettes, par exemple, on ferait bien de réfléchir quand même aux espaces publics et à leur équilibre.
Merci beaucoup Mathieu Flonneau de votre réflexion dans Europe Midi. Il est midi 20.
Encore une pause et dans un instant, les fouilles se poursuivent pour retrouver les restes du corps d'Estelle Mouzin. A tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Deuxième jour d'investigation des enquêteurs dans les opérations de fouilles dans le cadre de la disparition d'Estelle Mouzin.
Ah oui, et après l'échec des fouilles hier dans l'ancienne maison de Michel Fourniret, près de Charleville-Mézières, c'est au château de Sautou, situé à 10 km seulement. Autre ancienne propriété du tueur en série que les enquêteurs s'intéressent aujourd'hui. Lionel Gougelot, rappelez-nous, pourquoi ce château ?
Eh bien tout simplement parce que c'est sur cette propriété qu'en 2004, les corps de deux anciennes victimes de Fourniret avaient été exhumés, une jeune femme et une adolescente enterrées à plus de 3 mètres de profondeur. Alors il faut vous imaginer un château au cœur d'un vaste parc boisé de quelques 15 hectares avec 4 étangs, un domaine acheté un peu plus d'un million de francs à l'époque par Fourniret, qui était parvenu à détourner une partie du butin du gang des postiches, vous savez, cette célèbre bande de braqueurs des années 80, un magot de pièces et de lingots d'or. Comme hier donc, les enquêteurs ont déployé ici un important dispositif de recherche. Des plongeurs sont prévus pour inspecter les plans d'eau, des moyens techniques également pour sonder le sol. Mais dans cette immense propriété, il faut s'attendre à des recherches longues et fastidieuses. C'est en tout cas ce que prévoyait dès hier Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, le papa d'Estelle.
Les recherches vont continuer demain, après-demain, peut-être toute la semaine. En tout état de cause, nous espérons qu'au terme de ces recherches très importantes que nous demandions au nom de la famille d'Estelle Mouzin, la vérité puisse être enfin trouvée.
Mais à la différence de 2004, Michel Fourniret n'est pas là aujourd'hui pour indiquer aux enquêteurs l'endroit où la petite Estelle pourrait être enterrée. D'ailleurs, en 2003, quand l'enfant a été enlevé, il n'était plus propriétaire depuis longtemps de ce château.
Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, en direct des Ardennes.
La campagne des municipales avec à Paris le trio de tête, Anne Hidalgo, Rachida Dati, Agnès Buzyn et de nouveaux ennuis pour cette dernière.
Oui, puisqu'apparemment des assistants parlementaires de Laetitia Avia aurait pris part dans la campagne de l'ancienne ministre Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, ce sont de nouvelles révélations de Mediapart qui fragilisent un peu plus la candidature d'Agnès Buzyn. Des assistants de la députée de Paris, Laetitia Avia, candidate LREM dans le 12e arrondissement, auraient travaillé sur sa campagne municipale entre septembre 2019 et mars 2020. Mediapart publie des copies de messages dans lesquelles la députée demande à ses collaborateurs parlementaires d'organiser un déplacement ou de réaliser un tract pour la campagne. Toujours selon Mediapart, des réunions auraient été organisées organisée dans le local de la députée Avia, une permanence qu'elle partage avec son collègue Paco Morupin, tête de liste d'En Marche dans le centre de Paris. Des faits interdits par le code électoral et démentis par l'avocat de Laetitia Avia. Embarras dans l'entourage d'Agnès Buzyn, on préfère ne pas commenter. Même chose du côté de l'Assemblée. Dans le camp d'Anne Hidalgo, on dit attendre la tenue du second tour dimanche avant d'envisager un recours. Mais Rachida Dati passe à l'offensive. La candidate LR demande le rejet des comptes de campagne et l'annulation du scrutin dans les deux arrondissements concernés.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois. Et du côté d'Anne Hidalgo, son colistier l'écologiste David Belliard a soutenu la sœur d'Adama Traoré dans son combat, dernièrement renouvelé par le mouvement Black Lives Matter. On l'a même vu poser avec Assa Traoré. Et Twitter, quel message vis-à-vis des forces de l'ordre? Eh bien, Sonia Mabrouk lui a posé la question ce matin.
C'est pas un combat de haine, c'est pas un combat négatif, c'est un combat qui porte une aspiration à la justice, une aspiration à la transparence, une aspiration, encore une fois, je le redis et je le redirai autant de fois qu'il le faut, nous avons besoin de retrouver une confiance,
donc,
une confiance avec la police républicaine.
Vous savez, la République, vous la soutenez à sa Traoré quand elle dénonce avec son comité un racisme d'État en France.
La République, vous savez, c'est pas parce que je soutiens, en tout cas j'ai eu un échange avec Assa Traoré et que j'étais à la manifestation de samedi dernier.
Donc c'est pas un soutien total.
Sûr, mais vous savez, mais c'est comme partout, c'est
donc
comme toujours.
Donc vous ne la soutenez pas quand elle dénonce un privilège blanc.
Mais on peut avoir un certain nombre de nuances, vous savez.
Donc vous ne la soutenez
moi,
pas quand
savez,
elle dépose plainte
pas
contre tous ceux qui
je
informent.
Je ne porte pas l'anathème, notamment par exemple sur tous les policiers, mais je constate qu'il y a un certain nombre de problèmes dans l'organisation. L'organisation et notamment sur des questions de transparence. C'est ça qui m'importe. Vous savez, encore une fois, on peut avoir des rapprochements, notamment sur les mobilisations, sans embrasser l'ensemble des déclarations qui sont faites.
David Belliard, invité de Sonia Mabrouk, ce matin sur Europe 1, midi 27.
Europe 1.
Une nouvelle pause et dans un instant, les derniers mots de Cédric Chouvia, ce chauffeur-livreur mort après un contrôle routier. A tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Cédric Chouvia, souvenez-vous, ce chauffeur-livreur de 42 ans, mort en janvier dernier à Paris, à la suite d'un contrôle routier. 4 policiers sont impliqués dans son décès.
Ils ont été placés en garde à vue, auditionnés par l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, qui dans son rapport fait état de plusieurs enregistrements vidéo. Et d'après Le Monde et Mediapart, Cédric Chouvia a répété plusieurs fois j'étouffe sans que les policiers réagissent. Guillaume Bier, ce matin, la famille Chouvia a convoqué la presse pour en dire plus.
Oui, une conférence de presse donc des proches de Cédric Chouvia, sa veuve, ses enfants, sa sœur, ses parents aussi, notamment son père, très ému après avoir appris que son fils avait déclaré effectivement plusieurs fois qu'il étouffait.
Quand vous entendez cette fois votre fils, c'est dur. Et on lui a pas laissé de chance, quoi. En gros, c'est crève, salopard, parce que ta plaque était sale. Vous voyez ? Donc on n'y a laissé aucune chance. Vous savez, dimanche, c'était quoi ? Dimanche, c'était la fête des pères. Moi, il m'a manqué un coup de fil. C'est de mon fils. Il ne m'a pas appelé dimanche.
Les proches de Cédric Chouvia attendent que les policiers impliqués dans cette affaire soient mis en examen. Ils ne comprennent pas que ces fonctionnaires ne soient toujours pas suspendus. Quant aux avocats de la famille, ils dénoncent, je cite, des violences policières permanentes, un déni et un mépris des institutions, tout en saluant le travail des juges. Maître William Bourdon, lui, pointe tout particulièrement l'attitude des policiers.
Au lieu de s'arrêter, ils continuent. Et pourquoi ils continuent ? Parce qu'ils sont dans l'obsession de l'efficacité, dans l'obsession que l'immobilisation soit absolument parfaite et acquise. Et on voit bien que dans cette technique-là, il y a une perversion. Et cette perversion, c'est qu'elle conduit à s'acharner sur un homme au moment où il faudrait s'abstenir.
Enfin, la famille de Cédric Chouvia a multiplié les appels au président de la République, lui demandant de s'exprimer et notamment d'interdire aux policiers de pratiquer la clé d'étranglement.
Merci Guillaume Biet. Voilà donc pour les arguments de la famille Chouvia. Écoutez maintenant les réactions de Maître Thibault de Montbrial. L'avocat des policiers impliqués explique leur version des faits.
Lorsque les policiers en garde à vue ont été confrontés à ces propos, ils ont tous été à la fois surpris et effondrés. Effondrés parce que, bien sûr, s'ils les avaient entendus, ces propos, ils auraient aussitôt arrêté ce qu'ils étaient en train de faire. En réalité, ces propos, ils ne les ont pas entendus, puisque c'était un casque micro, donc avec un micro tout près de la bouche, qui a donc amplifié ces propos. Par ailleurs, M. Chouvia était en train de lutter, donc il y avait un bruit de lutte. Et enfin, tout ça s'est déroulé à quelques dizaines de centimètres de la circulation, une circulation abondante qui faisait aussi beaucoup de bruit. Ce qui est extrêmement important à souligner, c'est que si les enquêteurs avaient eu le moindre doute sur le fait que tel ou tel des policiers avait menti sur ce point qui est un point important. Il y avait une manière procédurale très simple qui consiste à déférer les gens à la fin de leur garde à vue. Or, ce choix n'a pas été celui des juges d'instruction. C'est donc que, à ce stade, il est probable que le juge d'instruction ait considéré comme les policiers qu'il n'ait pas pu entendre les propos de M. Chouviat.
L'avocat des policiers dans l'affaire Chouviat, Thibault de Montbrial avec Alain Accot. Notez aussi qu'un gardien de la paix de Strasbourg a ce matin été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il avait matraqué une manifestante gilet jaune en janvier 2019. Il a aussi 5 ans d'interdiction de port d'armes.
Au terme de plusieurs mois d'audience, le procès du médiateur arrive bientôt à son terme avec aujourd'hui et demain l'heure du réquisitoire.
Le laboratoire Servier est notamment poursuivi pour tromperie aggravée, blessure et homicide involontaire au sujet de son médicament coupe-faim. Le médiateur, prescrit pendant 33 ans, qui a fait, souvenez-vous, des milliers de victimes, parmi elles Soraya Bento, dont la mère Amaria a pris ce médicament pendant plus de 10 ans. Elle est décédée en octobre dernier. Ce témoignage que vous allez écouter, Soraya Bento parle de sa maman victime. Elle est décédée en octobre 2019.
On a été touchés par le décès de ma maman le 13 octobre, un mois et une semaine après le début du procès. Ma mère était très, très impliquée, elle voulait même se déplacer en chaise roulante, etc. Son état s'est dégradé de jour en jour, de mois en mois. Ses organes ont été détruits, donc voilà quoi. Le médiateur nous l'a confisqué, notre maman. Vous savez, maintenant, j'ai plus de volonté et de force pour pouvoir continuer à me battre au nom de ma mère, parce que c'est elle qui nous a dit « Allez-y, je compte sur vous, mes enfants, battez-vous jusqu'au bout ». Elle nous a confié cette mission et je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison. Le laboratoire Servier, il faut qu'ils assument leurs erreurs. Il faut qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait, ça fait mal. C'est inadmissible. On ne se sert pas des gens pour eux. On n'est pas des cobayes. Et je leur en veux, je leur en veux.
Voilà, témoignage recueilli par Chloé Triomphe, midi 35. Europe
1. Une nouvelle pause et dans un instant, une école primaire à Nîmes obligée de délocaliser à cause d'un trafic de drogue. A tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
C'est une situation totalement inouïe. Une école élémentaire de Nîmes est obligée de déménager à cause du trafic de drogue.
On se trouve là dans le quartier du Chemin Bas, le plus pauvre de la ville, classé REP+ de l'école. On entend les coups de feu, les guetteurs sont là continuellement. Les enfants assistent à tout cela, Nathalie Chevance. L'établissement est donc obligé de le délocaliser, mais c'est une sorte de mise aux abris.
Oui, 150 enfants qui tous les jours prennent le bus direction un centre de vacances en pleine nature. C'est là que la ville et l'académie ont décidé de leur offrir jusqu'aux grandes vacances une scolarité apaisée après la mort d'un jeune tué par balle devant l'école. Des événements forcément traumatisants.
La personne qui est morte, ça pourrait arriver à une personne de ma famille, à une personne que j'aime. J'en ai fait des cauchemars.
Il y a plein de guetteurs. S'ils partiraient, on serait déjà tranquille. Il n'y aurait plus de problème ni rien.
Car effectivement, tout autour de l'école élémentaire, les guetteurs sont bien là en plein jour, à quelques pas des bouquets de fleurs laissés sur le bitume. Un réseau et des trafiquants qui ne respectent plus rien, comme en témoigne Christophe Boissier, directeur de l'établissement.
Trois intrusions dans la cour de l'école qui donc nous font déclencher l'alerte intrusion attentat où des douilles de calibre 9 mm ont été trouvées dans le parking de l'école par moi-même. Nos élèves et nous-mêmes n'étions plus en sécurité pour travailler sereinement, pour assurer nos missions que la République nous demande d'assumer. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Mais on tiendra, il faut, pour nos enfants, et surtout on y croit.
Avec une équipe pédagogique et des familles qui se serrent les coudes, soulagées pour le moment par ce déménagement temporaire, Saïda est maman de deux petites filles.
C'est pas normal qu'on ait la peur au ventre. Au lieu de dire à nos enfants le matin, travaillez bien, on leur dit faites attention, si vous entendez un bruit, mettez-vous sous la table, enfin, des coups de feu, vous vous rendez compte, et c'est triste.
Et pour le moment, seul un nouveau grillage est prévu autour de l'école pour la rentrée de septembre.
Merci Nathalie Chevance, à Nîmes pour Europe 1. Insécurité et violence a été la situation à Dijon, pas plus tard que la semaine dernière. Bonjour Emmanuel Bichot.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans Europe Midi. Vous êtes candidat LR à la mairie de Dijon. On est à 5 jours des municipales. Face à vous, le socialiste François Rebsamen, installé depuis des années. Il faut le dire, sur cet épisode-là précisément, des violences entre communautés tchétchènes et maghrébines, la mairie est-elle fautive ou, comme François Rebsamen l'a dit, y a-t-il eu une faille dans les services de renseignement ?
Nous venons de connaître des événements très graves, hein, une situation sérieuse. Moi, ce que je souhaite dire, c'est que la situation peut être reprise en main. Nous pouvons rétablir l'ordre. Simplement, il ne faut pas continuer comme avant. Mettre en cause aujourd'hui les services de renseignement, je pense que ce défaussé, une note effectivement serait remontée pour prévenir que une descente de Tchétchène pourrait avoir lieu, mais sans indiquer ni de nombre ni de date.
Alors Emmanuel Bichot, vous auriez fait quoi à sa place, très concrètement, à la place de François Rebsamen face à une situation pareille?
Écoutez, en fait, ce que nous avons payé ces jours-ci, c'est le résultat de 20 ans de sa politique dans les quartiers de Dijon, 20 ans de laxisme, de complaisance à l'égard de la délinquance. Nous sommes dans un quartier où les rodéos, où tous les... Comment ?
Oui, on vous écoute, Emmanuel Bichot. Vous êtes en direct sur
Europe 1. Oui, alors écoutez, moi, je pense qu'il faut déjà faire confiance à la police. Il faut soutenir la police, il faut soutenir le travail de la police, de la justice et de l'État. Il faut effectivement prendre des mesures fortes. Ce que nous proposons, nous, c'est un contrat avec l'État, un nouveau contrat de sécurité locale avec l'État, sur la base d'une politique de fermeté à l'égard de la délinquance. Nous proposons de renforcer la police municipale, qui aujourd'hui est dimensionnée pour une ville de 50 000 habitants. Nous proposons de rétablir des gardiens d'immeubles qui seraient assermentés dans les immeubles HLM, en contrepartie d'ailleurs des exonérations, des réductions de taxes foncières qui leur sont accordées. Et nous souhaitons que l'ensemble de ces mesures interviennent le plus rapidement possible après les élections.
J'entends très bien la situation. Je reviens sur ce que vous avez dit à propos des 20 ans de ce dont vous héritez que vous êtes effectivement en campagne pour les municipales. Mais devant une situation d'urgence, si vous aviez été aux manettes, si on vous avait dit tiens Emmanuel, c'est à vous d'y aller, allez-y au front, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que c'est facile c'est 20 ans d'héritage, je ne sais pas, de François Rebsamen ou d'autres avant lui.
Alors, deux choses, bien sûr.
Oui, première chose. On vous entend plus, Monsieur Bichot. Vous avez disparu.
Oui, je vous entends.
Oui.
Oui. Alors, donc, écoutez, c'est très simple. Oui. Voilà, j'ai entendu la question. Oui.
Monsieur Bichot,
écoutez, il faut reprendre en main la situation dans le quartier. Donc, il faut faire sur le moment, il faut faire confiance à la police. Il faut faire.
Alors, Monsieur Bichot, on va devoir interrompre. Allô,
vous m'entendez? Faire confiance à la police. Il faut faire confiance à la police.
Vous l'avez déjà dit, Monsieur Bichot. Oui. Devant une situation d'urgence comme celle qui a éclaté dans votre ville l'autre jour, qu'est-ce que vous auriez fait?
La seule solution, effectivement, sur le moment, était de déployer des effectifs de police comme cela a été fait.
Donc, c'était plutôt bien
donc
fait.
C'est
une très mauvaise liaison. Je suis désolé.
Alors, mais nous, on vous entend très bien, Emmanuel Bichot. À part la sécurité, quels sont les autres enjeux pour vous, pour les municipales?
Alors, les enjeux des municipales, c'est effectivement de revenir aux fondamentaux. En matière d'urbanisme, effectivement, on constate aussi les dégâts de 20 ans de politique de densification. En matière de sécurité, eh bien, il faut revenir aux fondamentaux avec une politique de fermeté, comme je viens de le dire. En matière de prélèvement, eh bien, il faut effectivement réduire les impôts et les tarifs publics qui n'ont cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Et en matière de développement économique, eh bien, il faut en finir avec la stagnation de l'emploi et développer de nouvelles activités à Dijon, ce qui est absolument impératif aussi dans le contexte de crise économique actuelle.
Merci beaucoup Emmanuel Bichot, merci d'avoir été notre invité dans Europe Midi, les midi 44.
Une dernière pause et dans un instant, une fin de saison difficile pour les clubs de foot. Et on sera avec notre invité exceptionnel, Stéphane Diagana, tout de suite.
Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
Fin de saison difficile pour les clubs de foot, Pierre.
Oui, et il n'y aura pas de Ligue 1 à 22. Les clubs viennent de voter pour le maintien à 20, c'est-à-dire les deux derniers clubs vont être relégués. Il n'y aura pas non plus de suite du championnat. La crise du Covid a aussi engendré de gros problèmes financiers pour les clubs. Malgré cela, Marseille se veut optimiste pour avoir la meilleure équipe la saison prochaine. C'est ce qu'a dit ce matin sur notre antenne le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, le garantit. Les stars ne partiront pas.
Non, il n'y a pas de grande solde à l'Olympique de Marseille. Il y a d'abord eu pendant 4 ans la volonté d'investir massivement pour relancer le club et son projet sportif. Et évidemment, on n'a pas fait tout bien, on a des échecs, mais on a aussi beaucoup de succès. Et en tout cas, ce club est revenu au plus haut niveau du football français, a fait une finale de Ligue Europa et après sa 3e année complète, au sein de l'élite, retrouve la Ligue des Champions et ça, c'est ce que beaucoup de supporters attendaient.
Avec les noms que j'ai cités, on aura en Ligue des Champions Mandanda, Thauvin, Payet,
Bien sûr qu'ils seront là avec un maillot marseillais et notre volonté en tant que dirigeant, c'est évidemment d'être le plus compétitif possible, mais aussi de le faire sur la base d'un modèle économique pérenne. C'est quelque chose que les dirigeants doivent rechercher et c'est ce qu'on va faire à l'Olympique de Marseille.
Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, ce matin sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Les clubs essentiels pour l'épanouissement de nos enfants, mais voilà que le CIO, le Comité International Olympique, s'inquiète de la fermeture probable de nombreux clubs, mais pas que le foot, hein, évidemment, l'athlétisme, beaucoup d'autres sports. Bonjour Stéphane Diagana. Stéphane Diagana est avec nous sur Europe 1 dans un instant. Stéphane Diagana, rappelons-le, champion du monde et d'Europe d'athlétisme sur 400 haies. Qui va donc aujourd'hui, qui aujourd'hui est membre de la commission des athlètes de Paris 2024, qui va nous parler justement de son inquiétude quant à la fermeture des clubs. Bonjour Stéphane Diagana.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes vous aussi inquiet, comme le CIO, de cette fermeture des clubs qui, pour nos enfants, sont un épanouissement extraordinaire?
Oui, bien sûr, pour les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que bien sûr, on pense, quand on pense sport, on pense jeunesse, mais ça concerne tous les âges de la vie et les clubs accueillent de 7 à 77 ans et bien au-delà, comme on dit, que ce soit pour des pratiques compétitives, orientées vers la compétition, mais aussi des pratiques sport-santé de plus en plus. Donc oui, inquiétude parce que beaucoup de dirigeants de clubs, et moi forcément je suis licencié dans un club d'athlétisme aussi et je connais la vie des clubs, beaucoup s'interrogent sur les inscriptions en septembre. Or ça compte pour beaucoup avec la réduction bien sûr des dotations des collectivités territoriales. C'est difficile d'avoir des aides de plus en plus des communes, hein, même si elles aident beaucoup le sport. Donc la part des licences est importante et l'adhésion au club est importante, bien sûr.
Stéphane Diagana, faut-il craindre un séisme pour ces clubs sport français si certains ne s'en remettent pas? Est-ce que les licenciés risquent de ne pas revenir à la rentrée?
Oui, il y a cette crainte, mais ça va au-delà des clubs. Hein,
ça commence là.
Près d'un quart de la population qui est licenciée dans les clubs. Mais dans ces clubs, au-delà de pratiquer du sport, on apprend à vivre ensemble. Au-delà de ce que l'on peut faire, bien sûr, à la maison et à l'école, c'est un lieu important de sociabilisation, d'unité sur un territoire. Hein, quand on veut jouer dans un club, quel que soit le quartier d'où l'on vient, on va dans le club de la ville et ça permet de se rencontrer. Donc il y a des enjeux qui vont au-delà du sport, ce sont des enjeux sociétaux. Et donc en tant que sportif, ancien sportif, on sait ce qu'a pu nous apporter un passage dans ces clubs.
Ça démarre souvent là-bas.
Tous les bénévoles qui s'investissent. Donc j'espère que le mouvement sportif, mais je suis assez optimiste parce que je pense que la plupart des licenciés ne vivent pas l'adhésion comme un acte de consommation, mais comme un acte d'engagement et
de communion.
Les clubs étant en difficulté, exactement, les clubs étant en difficulté, je suis assez serein là-dessus et je pense que la plupart des adhérents renouvelleront leurs cotisations pour soutenir les clubs.
Vous êtes 100 hein, champions sportifs à soutenir justement ce message aux côtés de Deschamps, de Griezmann, de Riner, de Manodou, de Fourcade. On est à 4 ans des Jeux Olympiques de Paris. Cette crise du Covid, est-ce qu'elle peut avoir un impact à long terme selon vous?
C'est la grande difficulté, c'est l'incertitude. C'est déjà, il y a la crise forcément avec ce qui va se passer derrière, puisque les clubs, leurs sources de revenus, la licence, bien sûr les aides et les subventions des collectivités territoriales, et puis après c'est le partenariat. Alors pour les petits clubs, c'est pas facile, ça pèse pas pour beaucoup, mais
et puis la préparation dans les clubs des jeunes qui vont participer aux JO.
Oui, tout à fait, mais je parlais de moyens. Là, je parlais des moyens. Bien sûr. Les moyens, la licence, les subventions, et après, les entreprises qui soutiennent aussi pour certaines, elles vont être en difficulté pour certaines, donc ce seront des ressources en moins. Et forcément, in fine, s'il y a un peu moins de ressources du côté des licenciés, un peu moins du côté des collectivités territoriales et des entreprises, il va y avoir une difficulté pour accompagner les athlètes, ça c'est certain.
Merci beaucoup Stéphane Diagana. Merci infiniment d'avoir été dans notre journal d'Europe Midi en direct.
Et pour terminer ce journal, on va parler théâtre avec la cérémonie des Molières qui a lieu ce soir dans des conditions bien particulières.
Et là aussi, suite au Covid-19, la crise sanitaire, un des Molières sans public pour la première fois. Bonjour Stéphane Hillel.
Bonjour.
Le directeur du théâtre de Paris, j'allais vous dire, comment est-ce que vous le prenez, cette cérémonie des Molières pour la première fois dans des conditions pareilles? Vous le prenez bien?
Oh, moi, je le prends personnellement très, très bien, si vous voulez, parce que c'est, d'abord, ça, le fait qu'il n'y ait pas de public, on n'est pas obligé d'y aller, donc ça sera sans doute moins ennuyeux que les années précédentes.
C'est sympa. Sympa pour les autres, pour les autres années.
Non, mais c'est bien. Mais pardon, mais j'avais prévenu que je n'étais pas un ardent défenseur, parce que...
Tous les points de vue s'écoutent, Stéphanie.
Voilà, c'est vrai que ces dernières années, les cérémonies étaient assez laborieuses. Pas l'année dernière, c'était plutôt un peu mieux, je crois. Mais voilà.
Vous n'êtes pas contre l'instauration d'une cérémonie, quelle qu'elle soit, pour récompenser le théâtre. On est d'accord.
Je suis non seulement d'accord, mais en plus,
en tant que directeur
je vais
de
vous
théâtre,
dire, je n'ai aucune aigreur par rapport à ça, à titre personnel et les spectacles, et moi-même à titre personnel en tant que metteur en scène, j'ai eu un Molière, j'ai été nommé plusieurs fois, les spectacles que nous avons produits ont été récompensés plusieurs fois, on a été très gâtés, donc je me permets d'en parler parce que j'ai été très gâté, donc il n'y a pas de frustration, d'aigreur. Je trouve que dans les Molières, mais les organisateurs sont pas forcément responsables de ça. Si vous voulez, je crois qu'il faudrait se réinventer puisque c'est la mode.
Alors comment? Qu'est-ce qu'on fait? Imaginez, Stéphane Hillel, vous qui avez entre les mains, je sais pas combien de milliers de pièces de théâtre qu'on vous a suggérées justement pour les faire jouer dans votre théâtre. Imaginez, on vous donne une page blanche, on dit Stéphane, maintenant c'est à vous d'écrire la cérémonie des Molières. Comment elle va se dérouler?
Alors déjà, je pense que avant d'écrire la cérémonie des Molières, il faut revoir l'essence des Molières. L'essence des Molières, c'est la profession qui vote pour élire ceux qu'ils ont envie de reconnaître. C'est ça le principe. Y a eu un dévoiement de ça depuis quelques années, mais c'est vraiment la faute de personne. Les réseaux sociaux font que maintenant, ça devient une véritable campagne électorale où on reçoit des mails, votez pour ceci, votez pour cela. Les réseaux sociaux n'ont évidemment rien amélioré. Donc, il y a des nominations qui surprennent, qui ne correspondent pas. Donc, forcément, ça crée quelque chose qui est déjà un petit peu vicié au départ, donc déjà, parce que c'est ça quand même l'essence. Il faut qu'il y ait des reconnaissances où tout le monde se retrouve et où ce soit une vraie fête du théâtre. Je pense aussi que le grand problème auquel se heurtent les Molières, c'est qu'il faut que ce soit une soirée en même temps un peu de variété, voilà, et une soirée théâtre. Ouais. Entre paillettes et théâtre. Ouais. Ça ne marche pas ensemble.
Allez,
Il faut faire un choix. Un jour, il faudra faire un choix. Soit on assume que c'est du théâtre et on parle du théâtre et on n'est pas obligé d'en parler de manière ennuyeuse ou pontifiante. On parle gaiement du théâtre et on n'est pas obligé de passer par les paillettes, ou alors on fait une émission paillettes et c'est autre chose.
Réinventer, nous dit Stéphane Hillel, directeur du Théâtre de Paris. C'est aussi une façon d'écouter le monde changer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Europe Midi.
Et merci à vous, Pierre de Villeneuve. On vous retrouve demain à partir de midi.